Alain Auderset, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un artiste multifonctionnel, j'oserais dire, humoriste, musicien, diplômé en design, auteur de BD et d'un type de BD assez particulier, assez différent. Si les gens, en pensant BD, voient des planches à la Astérix ou à la Tintin, vous n'êtes pas du tout dans ces eaux-là.
Non, ben c'est... voilà. C'est moi.
Votre découverte de la BD est assez particulière dans une courte biographie que j'ai pu lire de vous. Vous ne connaissiez pas la BD avant de trouver une série qui s'appelait Les Cahiers Tournesol, quelque chose du genre, alors que vous ramassiez des vieux journaux pour le recyclage.
Oh, ben dis donc, c'est super, c'est le renseignement, c'est ouais. Parfait. En fait, je connaissais énormément de bandes dessinées et que j'appréciais beaucoup. J'en achetais une par semaine, donc j'avais vraiment une grande collection chez moi. Puis j'aimais bien ça, mais j'en dessinais pas. Je dessinais juste un petit peu pendant les leçons de maths où ça m'ennuyait et il fallait bien s'occuper. Et donc on a une tradition dans notre pays, c'est de la récupération. C'était une fois par année. Tous les gens du village mettent leurs papiers dehors et les écoles viennent ramasser ça. Et pour nous, c'est génial parce que ça nous fait congé. Ah ben oui, ben, et puis on trouve de temps en temps.
Pour les gens qui nous écoutent, il faut dire que vous êtes Suisse.
Ah oui.
Donc on ne s'attend pas à trouver ça à Québec. Là.
Ça n'existe pas, ça.
Ça n'existe pas sous cette forme-là, en tout cas. On récupère nos journaux, mais c'est à chaque semaine.
Ah, OK.
Oui. Allez-y, continuez.
Non, mais... Vous pouvez faire à Québec comme vous voulez, ça me dérange pas.
C'est
sympa,
bien.
Hein?
Oui, merci.
Ah ouais, mais pas
merci.
De problème, je
merci
peux rendre un autre service.
Oui. Alors, vous découvrez ces cahiers tournesol?
Oui, alors des bandes dessinées jetées à même la terre, là, puis je me suis dit, mais c'est pas possible, on a acheté des bandes dessinées, mais c'est pas possible. Alors, j'ai ramassé ça, chez moi, j'ai lu, et je me suis dit, mais c'est étrange, parce que à la fin des histoires, il y a une phrase de la Bible, puis ça dit Alléluia ou des mots, c'est des insultes pour moi, hein. Je sais pas ce que ça veut dire, tous ces mots. J'ai jamais entendu ça. Puis je me dis, mais qu'est-ce que Dieu fait dans mon monde, dans mon monde, la bande dessinée. Pour moi, j'avais pensé, ben Dieu, on l'a enfermé dans ces grands bâtiments avec des cloches au bout, hein, pour pas qu'il sorte, pour des gens qui sont sur le point de mourir, mais pour des jeunes qui ont envie de mordre la vie à pleines dents. Alors, c'était une interrogation, parce qu'il y a beaucoup de clichés, comme la plupart des gens, sur Dieu. Et heureusement qu'il se vexe pas.
Oui. Heureusement, oui. Mais est-ce que je dois comprendre que le climat familial n'était pas très religieux?
Oh, avez... pas du tout. Oh, mais non, j'ai eu des parents normaux. Non, je veux dire, mes parents sont extraordinaires. J'ai eu beaucoup de chance de les avoir. Mais ils peuvent pas me donner ce qu'ils ont pas. Donc, ce côté-là, ben voilà, de temps en temps, une petite messe de minuit. Hein, mais ils savaient même pas eux-mêmes pourquoi on le faisait. Tu vois, c'était un truc...
Donc, vous découvrez cette dimension spirituelle, cette présence de Dieu à travers les bandes dessinées que vous lisez, et ça vous amène à poursuivre plus loin la démarche, la recherche de foi, parce que vous dites vous convertir au catholicisme. Il y a dû y avoir une période d'apprentissage, une période catéchétique. Vous n'êtes pas arrivé du jour au lendemain, frappé à la porte du presbytère et demandé au curé, baptisez-moi.
Ben, en fait, c'est pas vraiment ça. Parce que moi, ce qui m'a étonné dans les histoires de bande dessinée que je lisais, c'est des histoires vécues avec des gens qui parlaient à Dieu, mais comme à un ami, comme quelqu'un qui prend le temps d'écouter. Et je me suis dit, mais c'est... Moi, au cathé, moi, j'avais... On m'a montré des trucs, puis on montrait ça comme si c'était quelque chose d'historique. Mais là, je me dis, non, mais là, on parle vraiment à quelqu'un. Et en fait, moi, je me suis pas approché d'un système religieux comme ça, mais c'est juste Dieu. Alors, j'ai fermé la porte de ma chambre, parce que j'ai un petit frère, vous savez, les petits frères, c'est terrible. et ça se moque de vous quand vous parlez tout seul. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, ben, bonjour Dieu, il y a quelqu'un ? Je me suis dit, Alain, tu parles tout seul, c'est n'importe quoi. Et le lendemain, je me suis dit, oh non, mais peut-être qu'il faut insister. Ça me chatouillait même pas. Alors je me suis dit, bon, il n'y a rien qui volait, il n'y a rien qui l'évitait. J'ai essayé comme ça de parler à Dieu en me disant que peut-être il était aussi dans ma chambre. Et après, j'ai essayé de me trouver une Bible. Et je ne savais pas si ça existait encore. Ouais, c'est les temps changent, hein, avec la laïcité et tout ça. Mais et puis, quand je l'ai trouvé, c'était pour moi comme si j'avais trouvé un trésor, parce que dans le tournesol, il disait, ben, Dieu parle à travers ce livre. Et c'est-à-dire que c'est comme ça, tout seul dans ma chambre, que j'ai lu, et que moi, je parlais à Dieu, que je voyais pas, mais que... Et j'ai vraiment senti avec le temps une présence. Et ça dépassait juste que je m'imaginais. Des fois, c'était tellement fort que je pleurais. Parce que moi, l'idée que j'avais de Dieu, bon, déjà, je pensais pas que c'était vrai. Je pensais que c'était un truc pour embêter les élèves, j'en sais rien, quoi. Mais je découvrais vraiment, c'est une histoire d'amour, en fait. J'ai découvert quelque chose de... une amitié, une tendresse, comme ça, puis...
Et vous considérez, Alain Audersec, que c'est ce qui a éveillé votre créativité. C'est qu'à partir de là, vous avez eu une sorte d'ouverture, de capacité de créer, et autant en musique, autant en BD, autant en humour, ça a été l'ouverture.
Ben, c'est ça, parce que, en fait, toute mon enfance, j'ai plein de rêves. Alors, j'ai fait des belles choses. J'ai quand même grimpé à des arbres. Hein? Puis, on a joué à toutes sortes de constructions, de cabanes. Et puis, mais pas à sucre, mais des cabanes quand même. Et puis, toutes sortes de choses. Mais je vivais pas mes rêves. Je rêvais de faire de la musique. J'ai pas fait. Je rêvais de faire du théâtre, du cinéma. J'ai pas fait. De la bande dessinée. Et puis là, tout à coup...
Parce que vous vous limitiez vous-même ?
Non, parce que j'étais paresseux. Je me dis, bon, c'est fatigant de faire tout ça. J'aurais juste voulu le fruit, mais pas le travail de s'occuper de la plante pour qu'il y ait un fruit. Et là, tout à coup, c'est de découvrir Dieu, c'était comme les portes qui s'ouvrent et puis qui me disent, mais tout est possible. Tout. Et puis c'est comme si, non, c'est pas comme si c'était vraiment le cas. Dieu, il m'a dit, ben, je suis avec toi maintenant, on va le faire ensemble. Et donc, mon voisin, il lui arrivait un malheur, il s'est blessé avec un tournevis, et puis il m'a dit, oh, je peux plus jouer de guitare. Puis j'ai dit, bah, tu me la prêterais? Et puis, j'ai commencé la guitare comme ça. Alors maintenant, je suis rendu, je joue la guitare électrique, là, comme je rêvais.
Alors, vous avez su profiter du malheur des autres?
Ben, c'est ce qu'on pourrait croire, hein, mais c'est pas moi le tournevis, hein. C'est même pas moi qui lui ai offert le tournevis. Donc ça. Mais comme quoi, des fois, dans certains malheurs, si on sait être un petit peu philosophe et prendre du recul, il y a beaucoup de bonnes choses qui peuvent sortir.
Vous allez, à un moment donné de votre vie, donc dans cet éclatement de vos talents, vous allez vous adonner à la bande dessinée.
Oui.
Dans vos bandes dessinées, vous introduisez cette dimension spirituelle, vous parlez de Dieu. Ça sera reconnu dans certains festivals de bandes dessinées. Vous allez obtenir des prix à Angoulême, entre autres, pour ça. Sauf qu'au niveau de la distribution, ça a été un handicap au début.
Ben oui,
c'était pas toutes les maisons qui consentaient à distribuer, même il n'y avait pas de maison qui consentait à vous distribuer parce que cet élément religieux cadrait pas trop avec la bande dessinée.
Parce que beaucoup de gens ont des préjugés. Et comme moi, j'en avais avant. Alors, quand j'allais voir un éditeur, il me disait, oh, vous savez, Dieu, ça n'intéresse plus les gens. Ben, j'ai dit, mais c'est faux. Ce qu'ils n'aiment, les gens n'aiment plus, c'est l'image qu'on lui a donnée, tout sérieuse et tout ça. Mais tout le monde a soif de savoir pourquoi il vit. Tout le monde rêverait d'avoir un ami comme ça. Tout le monde rêverait de savoir que sa vie a un sens, qu'il est aimé, qu'il n'est pas un accident, qu'il n'est pas... Ça passionne les gens. Alors ils me disaient, ouais, c'est ça, nous on sait mieux. Donc j'ai démarré seul, en Suisse, et ça a été très vite un best-seller de l'auto-édition. On est rendu à 100 000 livres vendus. Et tout ça, ben, c'était ma région. C'est clair que c'était sur longtemps, hein, ça fait 16 ans que je fais de la BD. Mais l'année passée, et là on se rapproche de vous, je suis arrivé ici à Québec. Et un petit peu, c'était un petit peu un pas de folie de venir. Et je me dis, ben, personne ne me connaît ici. Comment on fait? Alors, il y a une chose que je fais, je vous donne le truc, c'est gratuit, tout le monde peut le faire. C'est que tous les jours, moi je vais me balader, si possible dans la forêt, comme ça on est tranquille, pour parler à Dieu de mes soucis. Et aussi de mes joies, hein. On partage tout. Et des fois lui aussi, les siens. Et du coup, je me baladais et je disais, Seigneur, comment je vais faire? Tu vois, je suis pas connu ici. Comment je vais faire pour que mes bandes dessinées soient dans chaque librairie? J'ai aucune idée. Je lui parle, je m'attends pas forcément à une voix, hein, mais j'observe les choses qui se passent. Mais à ce moment-là que je disais ça, il y a deux corbeaux qui sont venus vers moi. Ah oui, ces bêtes noires qui volent.
On les connaît très bien.
Ah ouais. Et ils viennent et ils me parlent. Et puis, mais je comprends pas le corbeau. Je sais pas, ils sont là, ils font waouh, 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 waouh. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? Et puis, dans mon cœur, la conviction, Dieu est en train de te dire quelque chose. Et puis, on dirait une BD, hein, mais c'est vrai.
Et je suis non, là. Vous êtes un peu Saint-François d'Assise, là.
Ben ouais, mais sauf que lui, il comprenait. Et, mais moi, je suis juste assis quand on me parle. Et puis, j'ai dit au Seigneur, écoute, je suis vraiment désolé, mais je comprends rien ce que tu dis. Il faut être un peu plus clair, là. Et pas de réponse, tout. Puis je continue toujours en étant interrogé comme ça, dans ma tête. Et je vais au festival de BD, ici, à Québecville. C'est comme ça que vous dites, hein?
La ville de Québec.
Voilà. Et bon, ben, là, les gens, eh ben, d'ici, très gentils, m'ont accueilli, sans même trop savoir qui j'étais, quel genre de drôle d'oiseau. J'étais toujours dans ma tête en train de me dire, mais Seigneur, alors maintenant, c'est quoi? Qu'est-ce que je fais? Comment que ça se passe? Parce qu'il connaît pas mal de monde, hein, lui. Alors, j'ai vu quelqu'un ici, puis je me suis dit, c'est elle, je vais lui demander. Je dis, écoutez, je vais vous poser une drôle de question qui va vous paraître bien étrange. Mais si je veux percer au Québec avec mes bandes dessinées, c'est qui que je dois voir? Puis elle me dit, vous devez voir Monsieur le Corbeau. Puis... Moi, j'ai eu un silence dans ma tête me disant, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est un truc que je n'ai pas suivi. Je pense à ce qui m'est arrivé il y a à peine une heure avant. Et je suis désolé, mais je ne comprends pas. Je lui dis, je vais vous présenter mon mari qui s'appelle Corbeau. Ah! Et c'est ainsi que j'ai découvert un autre Suisse. Mais il était tout content de savoir que son pays existait encore. Parce que la preuve, je suis là.
Il y avait longtemps qu'il l'avait quitté.
Mais oui, c'est ça. Et puis moi, j'ai dit, c'est extraordinaire. Puis alors, on a sympathisé tout de suite. Puis ma nouvelle BD était sur une clé USB. Et j'ai dit, je te montre. Et puis elle va être parfumée à l'odeur de mer, parce que ça se passe au bord de la mer. Puis il m'a dit, ah bon. Et puis, en fait, après, je suis rentré, tout ça. Et quelques semaines après, je signais donc avec DLM. On dit Mirabel ou DLM? Ouais. J'ai signé avec cette maison qui, comme j'ai compris, était la plus grande maison de distribution de BD. Et je me suis dit, mais c'est juste incroyable.
Donc, vous êtes venu au festival de la BD à Québec avec une clé USB, pas un album.
Ouais, j'avais mis dans ma valise.
Vous vous souvenez pas exactement, c'est du contenu de la valise.
Ça se passe comme ça. Dans ma valise, je remplis de bandes dessinées, je mets quelques slips, quelques chocolats, parce que ça fait toujours plaisir, ouais. Et puis,
ça ouvre des portes.
Ouais, puis il y a quelqu'un dans la salle qui se dit, mais j'en ai pas reçu. Mais ils font, hein, tu vois, ils font. Et puis donc, sur le slip, ça fait bizarre, mais bon. Et puis, ce qu'il y a, c'est que, puis j'ai présenté ce que j'avais.
Alain Audercet, vous dites dans une présentation d'un de vos albums, vous dites vous remerciez la famille, bon, votre femme et vos enfants, de vous avoir suivi dans votre un peu folle aventure, c'est-à-dire ben, oui. quelque chose où vous avez l'air d'avoir un petit peu de regret de les avoir embarqués dans une chose, mais ils ont suivi, ils ont été très accueillants et finalement ça donne les résultats que ça donne. Ouais. Ça a été difficile de faire ce choix de vivre votre passion à vous en sachant bien qu'il y avait vous aviez des responsabilités et qu'ils allaient peut-être en souffrir.
Ouais, c'était pas évident, mais en même temps je pense que si je savais tout ce que j'allais vivre, j'aurais peut-être pas pris ce chemin. Mais maintenant que je l'ai vécu, je suis content de l'avoir vécu. Vous voyez la nuance. D'ailleurs, je me souviens très bien que j'ai dit à mon épouse, j'ai dit, écoute, je sens vraiment que je dois faire cette bande dessinée parce que ça va faire du bien à énormément de gens. Déjà ça, de dire ça, c'est fou. Je sais que ça va aider beaucoup de gens à vivre et qu'on va pas gagner notre vie. Mais Dieu, pour nous, c'est pas juste une théorie, on y croit vraiment. Il prendra soin de nous. Et puis, je te propose que je dessine et puis on lui fasse confiance.
Pour vous, la bande dessinée et votre métier, c'est une forme, c'est votre manière à vous d'évangéliser.
Mais oui, pas chaque BD. Par exemple, celle de Marcel qui sent la mer, là, ben c'est là pas, c'est juste drôle. Parce que le but, c'était de pouvoir rentrer dans le marché, que les gens qui peut-être s'intéressent pas à ces questions-là puissent voir un autre aspect des choses. Mais ça permet quand même de parrainer un enfant... pauvre et alors c'est clair, on parle pas de Dieu, mais on peut pas s'empêcher de faire quelque chose de concret dans la vie.
Dans votre création de BD, vous partez toujours d'une idée qui a un caractère spirituel ou un caractère de réflexion qui va amener à la réflexion, et après vous construisez votre histoire autour de cette idée-là. Est-ce que, par exemple, les vacances de Marcel, vous êtes parti de l'idée du parrainage, ou si l'idée du parrainage est venue en développant votre histoire?
En fait, moi, je l'ai pas vu venir, cette histoire de parrainage. C'est un peu Marcel, hein, le personnage Marcel, qui m'a amené là-dedans. Hein. Moi, j'étais parti pour une histoire drôle, un petit peu carrément, un peu genre fluide glacial, genre un petit peu vraiment humour noir, et puis
un peu olé olé aussi. Voilà, oui, on est sur les plages, il fait chaud, les filles sont belles, les bikinis sont courts.
Voilà. et puis tout à coup, en vrai vacancier, il regarde la télé, tu vois, c'est important quand on va ailleurs, hein, de regarder la série qui a rien à voir, mais il tombe sur un enfant qui meurt de faim. Et ils se disent, mais pourquoi pas passer le reste de nos vacances à gagner des sous et l'amener pour cet enfant. Mon idée, c'était de dire, dans l'humanitaire, souvent, c'est, on nous culpabilise, on nous dit, vous avez mangé aujourd'hui, c'est mal, hein, il y a des gens qui ont faim, puis vous avez mangé, c'est pas bien. Moi, je veux pas rentrer du tout là-dedans. Moi, je suis partisan de, on peut rigoler, et aider des gens. Il n'y a pas besoin que ça soit lourd.
Mortifiant,
quoi. Oui. Ben, pas du tout, quoi. Et puis, ben, c'est marrant parce que quand je vais rentrer dans mon pays, là, tantôt, ben, je vais assister à un spectacle de danse, les anciens élèves de Maurice Béjart, le danseur, là, qui adapte ma bande dessinée en danse. Et moi, ils m'ont dit, fais-nous un solo, là, qui tue l'amour. Je dis, mais me demandez pas de danser. Ça va que vous mettre en valeur, mais je ne sais pas. Et c'est nouveau pour moi. Donc,
c'est une autre ouverture.
Mais il y en a plein, ça n'arrête pas. Ça, c'est si j'ai découvert un puits d'énergie énorme. Et puis, on l'appelle souvent Dieu, hein, c'est le nom qu'on lui donne, parce qu'on a besoin de mettre des étiquettes sur les choses. Mais c'est carrément impressionnant. C'est nos limites, quoi.
J'aimerais revenir, Alain Audercet, à votre création de bande dessinée. Oui. J'ai mentionné en ouverture que si on pensait en fonction des planches d'Astérix, de Tintin ou de Spirou et autres, on fait fausse route. Vous n'êtes pas du tout dans ces eaux-là. Il y avait là aussi une audace de votre talent de présenter une bande dessinée qui était aussi différente. Vous n'aviez pas de modèle. Vous avez créé votre type de bande dessinée.
C'est-à-dire que, oui, j'ai eu que des modèles, en fait. C'est-à-dire que je sors d'une école d'art, j'ai appris graphiste. Donc on m'a appris l'art d'une certaine manière. On m'a appris que le vide n'est pas un défaut. Et puis qu'on peut se servir du blanc de la page pour amener une force d'idée et des choses comme ça. Et moi, en fait, je regarde beaucoup d'auteurs de BD, donc ceux que vous avez nommés, mais aussi d'autres. Et je me dis toujours, ah, ça, dans cette BD, ça me plaît, mais ça, ça me plaît pas. Donc je vais juste prendre ce qui me plaît, et puis je fais un petit peu mes commissions, magasinées, comme vous dites. Et puis j'ai à la fin ce que je veux faire. Mais même là, quand j'ai fini le livre, je me dis, bon, j'aurais pu faire mieux, je ferai mieux la prochaine fois. Mais l'idée, c'est d'aller, ça m'importe peu de savoir si ça ressemble à l'école de ci ou de ça. D'ailleurs, je ne recherche pas un style, je ne cherche pas à faire un genre, j'essaie juste de faire ce qui est le mieux, ce qui me paraît le plus intéressant, le plus vivant,
Pour tenter de cerner un peu votre style, parfois il y a des caricaturistes, pas des caricaturistes, mais des auteurs de BD qui vont y aller d'un trait de crayon assez limité, assez rudimentaire, à peine esquissé, alors que vous allez dans le détail, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement précis. Je pense à Robbie, entre autres,
ah ouais,
où tous les dessins, c'est cousu de détails, de précision. Vous parliez de peut-être que le vide pouvait avoir un sens, mais dans Robbie, c'est très plein.
Ouais.
Les phylactères sont aussi très présentes. Donc, là, vous avez un travail de minutie extrême dans...
Ben, ça, c'est le défaut du pays d'où je viens, là, les horlogers.
Tu vois? Ah oui?
Mais sinon, c'est clair que j'ai envie de faire une BD qu'on a envie de relire. Les lecteurs me disent souvent ça. Moi, je l'ai lu plusieurs fois. Et puis, il y a l'histoire de base qui est superficielle, qui est drôle. Puis voilà, j'ai bien rigolé. Justement, dans le cas de Robbie, c'est l'histoire d'un robot qui souffre d'un vide intérieur, mais qui s'est bien gardé de le montrer à ses copains. Il fait la fête et tout ça, mais quand il est seul devant sa glace, ben c'est vide.
Donc la thématique, c'est de vivre selon les apparences, c'est de montrer une face qui n'est pas nécessairement
voilà.
Révélatrice de l'intérieur.
Donc, la situation est cocasse, quoi, et voilà, mais l'idée, c'est que la personne qui lit une deuxième fois me dit, mais tiens, mais il fait sûrement allusion à autre chose. Et puis en fait, c'est les différents niveaux, d'ailleurs c'est marrant parce que c'est une ville robot sur 2, 3, 4, 5 étages. Donc, ainsi que la compréhension du livre est à plusieurs étages. Et donc, l'idée, c'est que, on voit ce pauvre robot, au début, ça avait l'air de rien, il essaye de remplir avec du matérialisme. C'est-à-dire avec plein de choses, mais c'est pas prévu.
C'est jamais satisfaisant.
Ben, c'est pas ça. Mm-hmm. C'est-à-dire que jusqu'à ce qu'il trouve le mode d'emploi, que j'ai appelé la Bible, mais le mode d'emploi de première communion. Et puis c'est là qu'il comprend qu'en fait il faut qu'il voie son concepteur. Mais en même temps, dans l'histoire, il y a une partie en gris à chaque début de chapitre où on voit ce concepteur qui essaye de le contacter, puis lui qui n'a pas le temps parce qu'il veut se remplir, mais la solution lui court après, mais lui il la fuit pour chercher la solution.
Il y a deux albums qui s'intitulent « Idées reçues ». Là, vous entrez vraiment plus dans le message religieux, dans le message où vous montrez comment on juge sur les apparences et comment on regarde que l'extérieur des choses et, bon, des idées reçues que vous démolissez jusqu'à un certain point avec la seule chose dont on est sûr, finalement, c'est l'amour de Dieu. Tout le reste, c'est factice, c'est faux.
Il y a deux courants, en fait. C'est-à-dire que j'ai pas envie de faire de la BD juste pour les gens qui s'intéressent aux choses de la foi. Et puis, j'ai le courant Marcel, Willy Grunsch et tout ça, qui sont vraiment, peut-être, beaucoup de gens vont se reconnaître dedans, des gens qui ont aucune question à ce sujet. Et puis, il y a peut-être le courant idées reçues, qui lui est vraiment plus, les gens savent là qu'ils vont trouver des questions existentielles. Comme par exemple ce gag, pour donner un exemple, c'est marqué « N'attendez pas une grande occasion pour lui offrir des fleurs ». Et on voit en dessous un corbillard et puis avec une couronne de fleurs, puis c'est marqué « À mon épouse ». Donc, alors, c'est de l'humour noir, mais le but est positif.
Oui.
J'aimerais que les gens Tant mieux s'ils lisent comme ça, mais s'ils font une deuxième lecture, ils vont se dire, attends, les gens que j'ai autour de moi sont précieux et un jour, je les aurai plus. Ou moi, je serai plus là. Donc, je vais profiter, dans le bon sens du terme, de leur dire mon amour. Tellement de gens vivent les uns à côté des autres, et puis ils s'aiment bien, mais ils ne se le disent pas. Et ils s'en rendent. Je pourrais résumer ça, que le bonheur, on le reconnaît au bruit qu'il fait quand il est parti.
Alors, c'est... Oui, c'est une belle, une belle façon de
définir.
J'ai
dû l'entendre quelque part.
Ouais. Vous pouvez vous en prendre la paternité, pourquoi pas. Et quand on voit arriver, pour ce que je connais de vos bandes dessinées, Les Vacances de Marcel, on a carrément l'impression que vous venez de changer de style. C'est beaucoup plus flamboyant, la couleur est là, c'est complètement différent de Robbie ou des idées reçues.
Mais je pense aussi que c'est lié à ma vie, parce que c'est clair que quand j'ai commencé, on est plus dans le noir et blanc, et ma vie aussi.
Votre vie s'illumine?
J'avais des choses de qualité, de précieux, énormes, mais c'était dur de vivre. Je ne savais pas des fois si j'allais manger le lendemain. J'ai toujours eu mangé, et puis mes enfants aussi. Mais on s'est retrouvés des fois dans des endroits, dans des villes qu'on ne connaissait personne, qu'on ne savait plus comment rentrer, qu'on n'avait plus les moyens. Et puis, alors, c'était des moments durs. Et puis, là, maintenant, je vis des choses plus faciles aussi pour eux. Et peut-être c'est comme si la couleur venait dans ma vie. Et puis, en fait, sans faire exprès, ma vie déborde et ça s'imprime et ça fait des BD.
Vous m'avez dit en début d'entrevue, Alain Audercet, que vos parents ne pouvaient pas vous donner ce qu'ils n'avaient pas.
Oui.
Quelque chose, vous l'avez dit en ces termes-là. Est-ce que vos enfants auraient à dire que vous ne leur avez pas donné ce que vous n'aviez pas?
Oh!
Qu'est-ce que vous n'auriez pas que vous n'avez pas pu leur donner?
Oula, c'est compliqué la question. Est-ce que je n'aurais pas, que je n'aurais pas pu donner? Mais sûrement plein de choses, parce que en fait, en tant que parent, on essaie de faire le mieux et on se rend compte qu'on aurait pu faire mieux. Et puis que... Mais une chose que j'ai vraiment fait l'effort... Bon, là, pour le Canada, c'était difficile parce que ça prend un billet d'avion. Mais sinon, j'ai pris toujours mes enfants avec, ou la famille, ou une partie de la famille. Partout où j'allais, quand j'allais à Paris, quand j'allais dans les rues et tout ça, dans les festivals ou des choses, j'essayais que mes enfants soient là. C'était toujours une priorité pour moi. Parce que je voulais pas que les enfants disent « Ouais, papa, il a fait son truc, mais il s'est pas occupé de nous. » Mais ça, ils pourront pas se le dire. Oui. Donc, ils ont, en plus, par rapport à la foi, Dieu parle souvent qu'il est le papa. Et je n'avais pas envie qu'ils avaient une idée du papa absent, lointain, qui a ses affaires à faire. Alors, on a énormément participé ensemble. On a vécu... Je pense que c'est vrai, on a vécu des moments difficiles. Hein, quand je prenais la voiture, je disais, écoutez, je vais vous parler la vérité. Papa, il a l'essence, il a l'argent pour mettre l'essence jusqu'à Paris, mais il n'a pas de l'essence pour rentrer. Mais Dieu pourvoira, parce que je vais vendre des livres là-bas. Et puis, il vivait le challenge avec moi. Et on vivait des bons moments, on rigolait, on a parlé, on a... C'est précieux. Et puis ça, je suis vraiment content. Oui.
Vous qui auriez voulu faire de la musique adolescent et vous vous empêchiez peut-être de le faire, vous avez un fils qui en fait de la musique et vous ne l'empêchez pas?
Ah ben non, ce soir, il fait un concert en Suisse, c'est un peu loin, mais je rate aucun concert sinon. Je vais le voir et c'est du gros métal, là, mais j'adore ça, et puis... D'abord, je me suis dit, mais c'est quoi cette musique de cheveux longs, hein? Puis après, je me suis dit, mais c'est intéressant, il y a des choses. Ah ouais, puis je lui demande, montre-moi la guitare, comment on fait ça. Et puis, il me montre. Et souvent, on pense que l'enfant ou l'adolescent a à apprendre de nous. Mais la vérité, c'est eux qui ont à nous apprendre. Et c'est énorme. C'est énorme tout ce qu'ils peuvent nous donner. Et cette attitude d'écoute, eh ben, ça les touche. Et d'ailleurs, si vous avez quelque chose à dire à eux ensuite, si vous les avez écoutés, ils vous écouteront plus volontiers.
Alain Audercet, auteur de bandes dessinées, également humoriste, musicien, peut-être chanteur.
Voilà, ça c'est quand on veut vider la salle.
Merci beaucoup pour cet entretien.
Merci, au revoir.